Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au troisième cycle, au volet du cycle de conférences Qu'est-ce que le socialisme ? Donc voilà, moi en fait je suis président des jeunes socialistes d'Anderlecht, un des partenaires de cette initiative. Et d'ailleurs je profite du moment pour saluer les autres partenaires de cette initiative, notamment la ministre de la Culture de la communauté française, Fadil Alanen, la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, qui est ici présente via Karine, le réseau socialiste des organisations de jeunesse et l'ISFSC qui nous accueille dans ses locaux et bien sûr le CEPEX qui est à l'origine de cette organisation. Donc voilà, aujourd'hui c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter M. Ernst Hillebrand, ici présent. Il est en fait directeur du bureau parisien de la fondation Friedrich Ebert. Il s'agit d'une fondation allemande à but non lucratif qui mène des activités en Allemagne et à l'étranger. Donc en fait, elle a été fondée en 1925. Elle a dû cesser ses activités en 1933 suite à l'arrivée du nazisme. Et elle a été recréée en 1947. En fait, c'est donc une institution indépendante et qui défend en fait les idées, les valeurs fondamentales de la social-démocratie. Ils ont aussi la chance de disposer d'une particulièrement grande bibliothèque avec des ouvrages liés à la social-démocratie. D'ailleurs, ils ont la collection la plus importante mondialement de documents sur l'histoire du mouvement ouvrier. Donc voilà, deux des objectifs de la Fondation ont particulièrement retenu mon attention en parcourant un petit peu le site internet, d'ailleurs que je vous invite à aller voir à l'occasion. Donc déjà, ils ont comme objectif de permettre à de jeunes gens talentueux, issus de la classe ouvrière, d'accéder aux études et à la recherche grâce à l'obtention de bourses. Et un autre objectif était de promouvoir l'éducation politique et sociale de personnes venant d'horizons divers dans un esprit de démocratie et de pluralisme. Donc voilà, je pense que à ce niveau-là, le décor est planté. Maintenant, revenons-en à la thématique qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Donc la question de la réorientation de la gauche européenne. Donc voilà, donc ces dernières années, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la définition de la gauche réellement. Dans de nombreux pays, on voit qu'elle est en difficulté, que les partis de centre-gauche ont de plus en plus de mal à retrouver leur électorat d'antan. C'est-à-dire les classes ouvrières et les milieux moins aisés. Et donc, on se pose la question, enfin, M. Hillebrand, en tout cas, s'est posé la question de savoir pourquoi, comment et quelles sont exactement les raisons de cette perte de contact et pourquoi le lien semble rompu avec les classes ouvrières et les couches populaires. Donc, est-ce que le cordon est rompu, simplement abîmé, etc. C'est un peu à ce genre de questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Il y a aussi la question du langage, de la manière de la manière dont les partis abordent leur électorat. Donc, est-ce qu'ils parlent encore de la bonne manière à ces couches populaires ? Et donc, en tout cas, il est clairement urgent que les partis se repositionnent par rapport à ces classes délaissées. Et donc, maintenant, il faut s'atteler concrètement à dessiner les contours d'un nouveau projet pour la gauche européenne. En tout cas, c'est ce que M. Hillebrand va nous expliquer. Donc, je lui laisse la parole, il va expliquer ça sûrement mieux que moi. Et après une petite pause, une séance de questions-réponses sera organisée pour simplement avoir des réponses à vos questions. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci. Merci aussi à vous. Vous êtes en train de sacrifier votre samedi après-midi pour m'écouter. Je trouve ça c'est déjà énorme. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Je me présente brièvement, déjà évidemment à côté du fait que je travaille pour la Fondation Friedrich Ebert, qui est la fondation politique du SPD, du Parti social-démocrate allemand, qui est vraiment une grande opération. On a une centaine de bureaux un peu partout au monde, essentiellement financés à travers de fonds du ministère de coopération, des fonds du ministère de relations extérieures. Donc ce ne sont pas de l'argent du parti, mais des fonds publics qui sont mis à notre disposition pour ce travail de contact, d'échange, de débat avec certains groupes politiques et sociopolitiques avec lesquels nous travaillons dans cette centaine de bureaux un peu partout au monde. Moi, je suis de formation politologue, j'étudie à Munich, je travaille pour la Fondation Liberté depuis 1990. J'ai travaillé quelques années en Afrique centrale et orientale, au Cameroun, Côte d'Ivoire, quelques années en Allemagne, où je m'occupais des questions de globalisation. Et après, j'étais en Amérique latine, au Chili, et j'ai géré le bureau de la Fondation à Londres, en Angleterre, et ces dernières années à Paris, en France. Évidemment, là, surtout ces derniers deux postes là, étaient particulièrement intéressants pour l'observation du changement du caractère de la social-démocratie allemande avec New Labour en Angleterre, aussi avec ce qui se passe actuellement en France avec l'essor du sarkozysme, la crise un peu structurelle, je trouve, du PS. Mais en même temps, évidemment, aussi, comme fond, on voit ce qui se passe avec notre propre parti, avec cette. Résultat catastrophique des élections de 27 septembre, on est retombé à un niveau qu'on avait atteint à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment, une phase de crise qui traverse la social-démocratie européenne un peu partout. Et j'assume que je suis invité grâce à un article que j'ai publié au Le Débat il y a 2 ans, l'incontournable réorientation de la gauche européenne, où j'essaie d'analyser ou d'argumenter qu'avec cette crise actuelle, cette crise électorale, c'est ferme un cycle dans l'histoire de la société, du centre-gauche européen. Cette cycle de Neue-Mitte, de Schröder, de Third Way en Angleterre, qui est une sorte d'ouverture intellectuelle et programmatique à la pensée néolibérale, qui était, à mon avis personnel, une ouverture nécessaire parce que ça correspondait à l'esprit des sociétés ouest européen de cette époque. Mais cette cycle était en train de se refermer autour des années 2006-2007 avec ses échecs électoraux parce que la social-démocratie Third Way n'était plus capable d'adresser les préoccupations réelles d'une partie importante de l'électorat. Et maintenant, la question évidemment qui s'enchaîne automatiquement, c'est la question et après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est en train de fermer un cycle idéologique et programmatique dans l'histoire du centre-gauche européen, ce cycle de Third Way, et qu'on la remplacera par quoi? Et donc, c'est un peu le sujet de mon exposition ici, mais aussi d'un article qui va apparaître dans le prochain numéro de Le Débat sur un projet d'une gauche européenne pour le 21e siècle, avec quelques aspects dont je trouve que c'est important que la gauche, le centre-gauche se réoriente et se positionne. Et si vous voulez, la thèse fondamentale de cet article est que si on a des problèmes un peu partout dans le centre-gauche, et on a vu l'ampleur, l'envergure de ces problèmes lors des élections européennes du juin de l'année passée, avec des résultats calamiteux un peu partout en Europe pour le centre-gauche, si on a des problèmes un peu partout, ça ne s'explique plus par des fautes individuelles, des situations locales, des situations nationales, par toutes ces tasses d'explications qui, évidemment, ce sont des facteurs qui jouent, mais qui ne peuvent pas expliquer cette tendance généralisée qu'on observe un peu partout en Europe, mais aussi ailleurs, dans d'autres parties du monde. Donc, ce qui m'intéressait dans cet article, c'est la question qui sont les changements tectoniques qui expliquent ce que nous observons sur la surface politique, c'est-à-dire les mauvais résultats électoraux. Par quel changement social dans nos sociétés, dans nos économies, dans nos structures sociales, aussi dans les réalités philosophiques et idéologiques de nos sociétés, quels sont ces changements tectoniques qui expliquent ces cours, ces chocs politiques que nous observons à la surface du système politique? Et moi, il s'agit là, je crois, des changements qui sont largement inadressés par la social-démocratie aujourd'hui, qui explique justement ces problèmes politiques qu'on trouve un peu partout en Europe. Et je veux d'abord, la première partie de mon exposition, concentrer sur ce que je crois que sont ces changements inadressés, auxquels nous, on n'a pas de réponse programmatique, idéologique, politique pour l'instant. La deuxième moitié, un peu sur quelques pistes où moi je pense qu'il faut orienter l'offre programmatique, idéologique du centre-gauche dans les années à venir. Donc, quels sont ces changements inadressés qui expliquent un peu le problème, les déboires électoraux du Parti social-démocrate actuel? D'abord, je crois, on a dans nos sociétés des nouvelles lignes du conflit social que la social-démocratie n'a pas du tout pris en compte dans son offre politique. D'abord, on a vu apparaître des dernières années et décennies une problématique insider-outsider, ceux qui sont à l'intérieur du système et ceux qui sont à l'extérieur du système. Et cette insider-outsider problématique, ça concerne le marché du travail, évidemment, le chômeur, un chômage de masse structurelle, un chômage de masse structurelle qui touche surtout les jeunes. Vous avez en France un taux de chômage des jeunes de 25%. Même dans un pays comme la Suède, dont on trouve que ça fonctionne plutôt bien, vous avez un chômage des jeunes autour des 27%. C'est encore plus élevé dans d'autres pays, l'Espagne. Et donc, là, dans les marchés, déjà sur les marchés du travail, vous avez par exemple un problème insider-outsider. Donc, au sein des forces de travail, vous avez un problème insider-outsider. Vous avez des gens qui travaillent comme des fonctionnaires, comme des gens avec des contrats à durée indéterminée. Vous avez ce secteur croissant de travail temporaire, de travail à temps partiel, de travail avec des contrats de durée déterminée, qui ne sont plus stabilisés dans leur vie professionnelle et qui ne profitent pas du système de protection sociale entièrement, comme les autres qui sont des insiders dans les marchés du travail. Vous avez un sentiment d'une conflit insider-outsider générationnel. Il y a les jeunes qui trouvent que ce sont les vieux qui les exploitent à travers le système de retraite extrêmement généreux, pour lesquels eux, ils doivent dans l'avenir, qui hypothèquent d'une certaine manière leur propre avenir, leur propre possibilité de consommation dans l'avenir. Donc, je trouve qu'il y a au sein de notre société toute une nouvelle notion qui se définit en fonction de la participation aux institutions de nos sociétés d'après-guerre comme nous la connaissons. Il y a ceux qui sont dedans, à l'intérieur du système, dedans, une partie de la population croissante qui sont un peu à l'extérieur de ce système et de ces institutions. Il y a une toute nouvelle ligne des conflits socioculturels. Dans la théorie, les sciences politiques classiques, vous avez la dimension socioculturelle, l'identité, c'était défini dans une sorte de contradiction entre une pensée libertaire et une pensée autoritaire. C'était la définition classique de l'identité socioculturelle du XXe siècle, qui est particulièrement marquée dans les années 60, 70, 80, où la gauche s'est appropriée de la pensée libertaire, a fait son mu, si vous voulez, culturel, et des forces politiques qui étaient marquées par une culture plus ou moins autoritaire, traditionnelle, des classes ouvrières, sont devenues des forces plutôt sociales, libérales, avec une idéologie libertaire, et ce qui leur a permis de se connecter avec les classes moyennes, de parties de la population plus éduquée, et ce qui faisait un peu l'identité, cette troisième gauche des années 70 et 80. Cet clivage socioculturel entre un concept autoritaire et liberté est en train de disparaître et d'être surplanté par un autre conflit socioculturel qui est défini dans la littérature comme un conflit entre une vision du monde communautariste, nationaliste et une vision du monde universaliste, cosmopolite. Donc vous avez une partie de la population qui est en faveur de la globalisation, en faveur de l'européanisation, en faveur de l'ouverture des frontières aux migrations, et il y a une autre partie de la population qui ressent tout cela comme une menace potentielle de sa situation de vie, de sa situation économique, de sa situation culturelle, de son identité locale ou comme groupe, qui sont plutôt dans une logique communautaire nationaliste. Ça, c'est le clivage politique le plus important, fort probablement actuellement, qui traverse la base électorale de la gauche et qui explique partiellement l'essor du parti de droite populiste, comme le Front National ou le Danemark, ou aussi le Flamme Zébelin, ou comment ça s'appelle ici en Belgique, et qui explique aussi la démobilisation des couches populaires, des travailleurs, et tout ça au sein de l'électorat de gauche. Aujourd'hui, si vous regardez pas mal de partis de centre-gauche, leur base électorale ne se constitue plus dans les couches populaires, dans les classes ouvrières, mais plutôt dans les classes moyennes. Et c'est ce clivage socioculturel, universalisme versus communautarisme, qui explique partiellement cette démobilisation d'une partie de l'électorat traditionnel de la gauche. Donc une nouvelle ligne de conflit qui est entièrement inadressée par le centre-gauche européen actuellement. Évidemment, vous avez des nouvelles diversités au sein de la société, une décrée diversité inexistante en Europe depuis plusieurs siècles avec l'immigration. Une nouvelle diversité religieuse, une nouvelle diversité dans le valeur sociale, le comportement, les habitus sociaux, qui sont quelque chose qui n'existait plus depuis plus de 100 ans, 200 ans dans nos sociétés qui étaient extrêmement homogènes, si vous voulez. Peut-être pas la Belgique, mais les autres étaient quand même assez homogènes. Donc, vous avez une nouvelle diversité culturelle, ethnique et religieuse au sein de nos sociétés qui est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer, surtout pour la gauche, parce que le modèle de solidarité de la gauche repose psychologiquement sur la notion d'une identité. Nous sommes tous dans le même bateau, d'une certaine manière. Et ce système de solidarité sociale est construit sur la notion d'identité collective, l'un profite de l'autre, parce que nous, on a quelque chose en commun. Et cette sens de communauté, d'identité compartie, est mise en péril, mise en question par cette nouvelle diversité qui est essentiellement, pas exclusivement, essentiellement résultat du processus d'immigration, mais aussi des changements culturels au sein de nos sociétés. Cette nouvelle diversité rend très très difficile à défendre le système de solidarité et de répartition qui, comme il existe dans l'état social traditionnel, qui sont les systèmes de répartition basés sur l'idée d'une identité commune. Jürgen Habermas l'a déjà analysé il y a 10 ans, cette problématique que la dissolution de l'identité collective nationale au sein de l'Europe d'aujourd'hui rend extrêmement difficile la défense du système de solidarité. La gauche n'a jamais compris que c'était un problème énorme. Elle est seulement, je crois, actuellement en train de comprendre l'enjeu, surtout en Angleterre. Là, on a vu chez New Labour un changement complet du discours des dernières 2-3 ans. Ils ont compris que c'est une des questions fondamentales qui explique leur perte de confiance au sein de leur électorat traditionnel de blue collar, white class, working people, surtout au nord de l'Angleterre. Donc, de nouvelles lignes des conflits sociaux, largement vues, mais pas adressées au sein de l'offre idéologique et politique de la social-démocratie, partiellement tabouisé même dans le débat, parce que les effets de l'immigration, c'est quelque chose dont la gauche n'a jamais discuté. Quelles sont les conséquences sociales, économiques, culturelles de ces changements-là? On ne nous a pas permis d'en discuter, analyser ces processus qui sont énormes. Ce sont des processus énormes. On a vu très peu de processus similaires ces dernières décennies au sein des sociétés européennes. Mais on n'osait pas en discuter pour peur de faire l'affaire de la xénophobie et des autres champs politiques. Donc, premier problème. Deuxième changement inadressé, évidemment, et inadressable peut-être, il faut le dire, ce sont les changements économiques. Nous sommes arrivés à la fin du long 19e siècle de dominance européenne de l'économie mondiale. Point final. On a 2 milliards d'êtres humains qui sont en train d'entrer dans l'économie mondiale, les Chinois, les Indois, et ça, évidemment, ne peut pas ne pas bouleverser la répartition des travail, des richesses sur cette planète-là. Autant que, comme l'essor industriel de l'Europe a bouleversé la répartition des richesses et les répartitions du travail sur cette planète au fil de ce long 19e siècle avec la révolution industrielle et toutes ses conséquences politiques et de dominance européenne et occidentale sur le reste du monde, la clôture de cette parenthèse, l'essor des autres régions qui pendant des milliers d'années étaient autant développées comme nous sur le plan technologique, comme la Chine, l'Asie de l'Est, et ça ne peut pas avoir des conséquences extrêmement massives sur le plan économique et mondial. Et ça a des retombées aussi sur la manière comment nos économies peuvent fonctionner, le niveau de vie que nous on peut produire, qu'on peut défendre face à d'autres pays industrialisés. Donc, je ne crois pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Cet changement arrivera. Il s'agit de le gérer de la manière la plus intelligente possible. De toute manière, c'est un de ces grands processus qui sont fort ingérables d'un certain point de vue. mais qui sont en train d'affecter négativement la possibilité du centre-gauche de mobiliser son électorat, de défendre les intérêts économiques d'une partie de son électorat qui est négativement affecté par ces changements-là. Donc, troisième point où je crois qu'il y a un changement massif, c'est l'organisation de la vie politique et sociale. D'abord, nous sommes face à une crise de la démocratie représentative. Si vous regardez le sondage qui se fait un peu partout dans le monde occidental, est-ce que vous avez confiance dans vos institutions démocratiques? Est-ce que vous trouvez que votre pays est gouverné selon l'opinion et la volonté des peuples? Tous ces types de questions-là, en général, vous trouvez une minorité de gens qui répondent d'une manière affirmative. C'est une minorité, très claire. En Allemagne, il y avait, avant les élections de septembre, un sondage, on a demandé, est-ce que vous croyez d'exercer une influence réelle sur la gestion du pays à travers de votre vote? Et c'était 0% des ouvriers allemands qui ont dit oui. Donc la confiance dans le système n'est pas plus élevée. Je crois, les gens ne sont pas irréalistes. Je crois qu'ils sont réalistes. Ils ont zéro influence sur la gestion de la vie. Donc, je crois qu'on est face à la crise de la démocratie représentative. En réalité, c'est très peu surprenant. Si on regarde un peu plus près, ce système n'a pas changé depuis 200 ans, 250 ans. Le système de la démocratie représentative a été créé dans les circonstances, je ne sais pas, vous dire, 8e siècle en Angleterre, où 2-3% de la population savait lire et écrire. Aujourd'hui, on est dans des conditions culturelles et sociales complètement différentes. On a un taux de baccalauréat de 60% d'une génération aujourd'hui chez les jeunes en France, par exemple. En Allemagne, c'est moins, mais de toute manière, aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont beaucoup mieux formés, beaucoup mieux informés, une connaissance autrement plus complète des enjeux politiques, économiques, sociaux, des réalités des sociétés où ils vivent. Mais le système, on est appelé chaque quelques années de désigner quelques-uns dans lesquels on a une certaine confiance qui vont défendre mes entrées dans les institutions politiques les prochaines années. Ça n'a pas changé. Et je crois que c'est complètement insuffisant pour la réalité de nos sociétés aujourd'hui. Il y a des nouvelles demandes de participation parce que la société est beaucoup plus informée, qui ne sont pas adressés par la manière comme on adresse la démocratie aujourd'hui. Il y avait cette belle expression de ce politologue américain James Rosenau qui a utilisé déjà dans les années 90 où il parlait d'une society of the smart people, une société des gens intelligents. Je crois que nous sommes arrivés dans cette society of the smart people, mais ces gens intelligents, ils ont le même droit de déléguer leur pouvoir politique chaque 4 à 5 années à une poignée de personnes qui après gèrent leurs affaires à leur manière. Je ne crois pas que c'est plus suffisant et ça explique cette confiance diminuante dans les institutions politiques de la démocratie représentative. Et en plus, évidemment, il y a un changement dans la manière comment l'opinion publique se forme. Nous avons vécu, disons, au début du XXe siècle, une sorte d'équilibre où l'opinion publique était formée à travers des contacts sociaux, avec des milieux stables, socioculturels, des milieux ouvriers, une vie associative, des milieux catholiques et protestants, des institutions comme l'Église, des contacts sociaux réels, l'échange aux places de travail. Tout ça a été dissout au fil du XXe siècle. Les gens se sont atomisés dans leurs relations sociales. Nous avons vécu l'essor de l'opinion publique exclusivement formée, dominée et contrôlée par les médias des masses, les communications massives. Cet système est encore en train de se fermer. Avec le système de World Wide Web, de l'Internet, ils se sont créés de nouveaux canaux de formation d'opinion publique qui ne sont plus contrôlés par les gatekeepers classiques, les gardiens des écluses de flux informatifs du XXe siècle. Et là, c'est en train de se créer une sorte de contre-opinion publique qui n'est plus l'opinion publiée, qui est contrôlée par les grands groupes médiatiques. Et aujourd'hui, s'articule dans l'Internet une autre manière, une opinion publique qui est beaucoup plus représentative de la pensée réelle de la société. C'est un peu comme on disait toujours La presse, c'est le quatrième pouvoir, ou les médias dans un système démocratique. Et aujourd'hui, on est témoin de l'essor d'un cinquième pouvoir, qui l'opinion des citoyens, qui s'articule à travers le forum d'Internet, le débat, des choses comme ça, qui est, si on regarde les plus proches, assez différent de l'opinion publique. L'opinion publique n'est pas du tout identique. Donc, pas mal de questions avec l'opinion publique. Et là, c'est un peu les tiers-états du débat public qui étaient la population générale qui est en train d'entrer dans le débat public. Ça aussi, ça va avoir des effets énormes, je crois, sur la manière comment on peut organiser la politique de nos sociétés, mais quelque chose qui est complètement inadressé par la manière comment notre système politique est actuellement organisé. Ultimement, dernier point de cette analyse des changements inadressés, ce sont les changements idéologiques, la vision de l'homme et de la société. Je crois que ça, c'est le domaine où la défaite du centre-gauche, du gauche tout court, était le plus complète ces dernières décennies. On a perdu la bataille d'interprétation qu'est l'homme et qu'est la société. Là, une vision néolibérale a clairement gagné la bataille. Des idéologies, des idées, les gens s'aperçoivent aujourd'hui pas forcément comme des êtres qui sont membres d'un groupe, membres d'une société, mais plutôt une vision individualiste, autonomiste, une vision post-matérialiste où mon place dans la sphère de production ne détermine plus nécessairement mon identité sociale, mais c'est seulement une partie de mon identité sociale. Il y a d'autres facteurs qui sont autant importants comme ma place dans le système de production. L'identité classique de la gauche, c'était une identité socio-économique. Je suis travailleur, donc je suis de gauche. Mais ce n'est plus le cas. Les gens peuvent bien être des travailleurs, mais ils ne sont pas... Cette situation dans le processus de production matérielle n'est plus le facteur absolument dominateur de leur identité individuelle. Il y a d'autres facteurs culturels, il y a leur place dans le système de consommation, de cette société des consommateurs, qui est beaucoup plus déterminant pour leur sens d'identité. Le décret, comment les gens se sentent comme des citoyens à part entière dans leur société, ne se définit ni par les droits politiques, ni par la situation dans les processus de production, mais de leur possibilité de participation à 100% à la consommation qui est jugée être la consommation normale dans notre société. Les gens se sentent exclus ou marginaux au décret de leur possibilité de consommer et pas forcément d'exercer le droit civique, de leur droit politique ou d'avoir des droits, de pouvoir s'épanouir dans leur lieu de travail. La consommation, le décret de participation à cette society of consumers est devenu le facteur probablement central de définir la citoyenneté au sens large dans l'esprit des gens aujourd'hui. C'est aussi quelque chose que la gauche n'a pas encore vraiment compris, comment adresser ces changements de formation d'identité collective et individuelle dans nos sociétés aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est le processus d'individualisation, d'autonomisation, et ça a des effets massifs sur le comportement politique des gens. Et cet automatisme, ma position socio-économique détermine ma position politique. C'est largement rompu. En Allemagne, lors des dernières élections, le 27 septembre, il y avait encore 17% des gens qui ont déclaré dans le sondage d'opinion « je vote toujours pour le même parti ». Donc, aussi, cette volatilité des comportements politiques s'explique par cette volatilité, si vous voulez, des identités qui est aujourd'hui prédominante dans nos sociétés. Et donc, il y a très peu de gens qui ont en réalité voté pour le même parti comme ils ont en 2009, comme ils ont voté en 2005. Le changement entre les partis ont été absolument massifs et des processus similaires s'observent un peu partout en Europe. Donc, voilà, c'est un autre élément, je crois, important qui explique les déboires électoraux de partis centre-gauche ces dernières années. Voilà, c'est un peu, ce sont première partie, c'est où je crois qu'on est face à des changements tectoniques, si vous voulez. au sein de nos sociétés. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi ? Bon, évidemment, c'est compliqué parce que c'est toujours seulement une partie de réalité qu'on peut adresser. Ce sont des réflexions individuelles. Mais je crois qu'il y a, à mon avis, il y a 5 champs centrales où la gauche doit faire redéfinir son offre idéologique et politique qu'il fait à la population. D'abord, c'est repenser les priorités de l'action étatique et la conception de l'État social. Surtout ces dernières années avec le Sudway et Neumitt en Allemagne, on avait quand même une discussion où le rôle de l'État social était essentiellement cantonné à une sorte de peaufinement du système social. C'était les débats autour de quelle est la manière la plus efficace d'organiser les secteurs publics et les systèmes de transferts sociaux, le modèle scandinave ou l'État activateur qui était un peu l'idée en Angleterre ou en Allemagne, et l'État joue un rôle d'activer les potentialités des gens pour qu'ils aident eux-mêmes à long terme. Je crois que tout ça, ce sont des faux débats. Le cœur, en réalité, doit être quelque chose de complètement différent. Nous sommes témoins d'un développement socio-économique au sein de nos sociétés qui est de plus en plus polarisante. Vous avez une partie de la population qui est en train de perdre des changements, les clivages socio-économiques sont beaucoup plus élevés qu'ils étaient les dernières 30-40 années. Et la répartition des valeurs ajoutées au sein de nos sociétés a changé complètement ces dernières années. Pas complètement, mais de toute manière, c'est clair que c'est toujours plus en défaveur des travailleurs et des salariés. Je crois que c'est ça le nœud du problème. L'action de l'État doit adresser la question de répartition de valeurs ajoutées au sein de l'économie. Ce serait une erreur de la gauche de se cantonner dans les débats comme du système redistributif. Le problème fondamental est la distribution primaire au sein de l'économie qui s'est déséquilibrée. Comme effet de tous ces changements dont on a parlé, l'européanisation, la mondialisation, l'entrée de la Chine dans le marché international, où il y avait le changement fondamental, où une partie du salarié a perdu son statut, a vu ses salaires s'est détérioré, on a vu l'expansion d'un système des bas salaires, on a vu l'expansion d'un secteur où les gens survivent en réalité que par des transferts sociaux, des tax credits en Angleterre. C'est ça le nœud du problème dans la dimension socio-économique. Il faut de nouveau trouver des outils qui permettent une meilleure répartition des valeurs ajoutées au sein de l'économie. La répartition entre le capital et le facteur travail, c'est là où se trouve le vrai problème et que la politique de la gauche doit adresser. Et pas le problème qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats de l'économie capitaliste, comment on peut, comme l'ambulance sociale, si vous voulez, du capitalisme, on court derrière, on ramasse les victimes, on les soigne un peu et leur donne un peu de pansement social pour qu'ils puissent survivre. C'était un peu la logique du débat autour de l'État social, du rôle de l'État dans l'économie ces dernières années. Je crois que ça doit changer. La répartition primaire, c'est notre problème. C'est quelque chose qui, dans la pensée de Schröder, dans la pensée de Blair, dans la pensée de Gordon Brown, à un certain moment, était absolument tabouisé. C'était le domaine par excellence où la politique n'était pas censée intervenir. C'était à l'intérieur de l'économie. Le marché a toujours raison. Il ne faut pas intervenir, distorner le jeu de cette mécanique fantastique qui est le marché. Et je crois que c'est ça où se trouve un des erreurs idéologiques fondamentales de la politique du Sudway des dernières années. Là, il faut revenir sur cela, il faut trouver les moyens qui vont permettre aux facteurs de travail de voir à long terme se stabiliser, regagner un peu sa position. Ça va augmenter la croissance, ça va dynamiser la demande intérieure, ça va dynamiser... Il y a pas mal d'atouts économiques d'une meilleure répartition de valeur ajoutée au sein de l'économie. Donc, c'est ça, sur le plan socio-économique, il faut passer de la discussion autour de systèmes sociaux, de nouveau au débat autour de la répartition de valeur ajoutée. Deuxième point, il faut repenser les solidarités et adapter ces mécanismes aux réalités des sociétés de faible solidarité. Les sociétés d'aujourd'hui sont hétérogènes et avec un sentiment de solidarité assez affaibli comparé au, si vous voulez, la phase classique de l'État-providence de l'après-guerre, parce que ce sont des sociétés marquée par une très grande diversité, par une autonomisation, par la disparition des identités des classes traditionnelles de la société industrielle. Le sentiment de solidarité est assez affaibli dans nos sociétés. Comme conséquence de tous ces changements-là, Marcel Gauchet l'a très bien formulé, je trouve, il dit que les systèmes de solidarité aujourd'hui sont essentiellement des systèmes où les moyennement pauvres sont censés aider les très pauvres. Mais ces moyennement pauvres, ils ne sont pas trop enthousiasmés par cette idée d'avoir structurellement à aider les très pauvres. L'acceptation de ce système de transfert social, surtout si c'est balancé par une participation active et positive de très pauvres dans ce système, toi tu me donnes quelque chose, qui est en général la base du système de solidarité, ils sont basés idéologiquement, psychologiquement, sur des idées de réciprocité. Il ne faut pas sous-estimer ça. Il y a pas mal d'études anthropologiques, sociopsychologiques qui démontrent que la réciprocité est une des valeurs fondamentales de tous les systèmes de redistribution de solidarité. Et donc, il faut prendre cette fait que la réciprocité, cette idée qu'on doit, que quelqu'un qui contribue à un système doit profiter un peu plus que celui-là qui ne profite pas. Nous devons le prendre acte de ces réalités, les réintégrer de manière plus systématique dans la manière comment nous organisons le système de transfert social comme nous le faisons aujourd'hui. On peut aimer ça ou non, ce n'est pas une question individuelle si je trouve ça bien ou négatif. Le problème, c'est comment défendons-nous l'État-providence face à un scepticisme croissant des populations qui s'expriment ces dernières années clairement dans un vote pour des partis anti-solidaires, comme le parti d'extrême droite, ou de partis conservateurs, qui de toute manière proposent quand même des changements substantiels à nos systèmes de transfert social. Nous sommes dans un système minoritaire. Si nous voulons défendre le système de transfert social, le système de solidarité sociale, il faut les adapter aux réalités des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est ça un des enjeux principaux, je crois. Pour ça, il faut repenser la solidarité sur la base de l'idée de réciprocité et de la contribution individuelle et de la reconnaissance de la contribution individuelle dans le système de transfert social. Et troisième point, je crois, il faut terminer clairement avec cet esprit anti-étatique de Sudway. Dans la logique de Blair Brown, etc., l'État était un mal nécessaire d'une certaine manière. Le grand problème des sociétés des années 70-80, de la social-démocratie traditionnelle, dans la vision de Sudway, du New Labour, était la défaillance de l'État, pas la défaillance du marché. Le marché était un mécanisme qui était largement reconnu comme étant supérieur, comme un mécanisme que l'État. Donc, il faut revenir sur cela. Ça, c'est, évidemment, aujourd'hui, ça ne peut plus, ça ne fond plus. Nous avons eu un gigantesque market failure dans les secteurs financiers ces dernières années. Il faut réhabiliter l'État comme outil de la politique de gauche. Mais d'une autre manière comme l'a conçu ces dernières années. C'était l'État activant, un État qui pousse les gens à se rendre utilisables au sein de essentiellement dans le système économique. Moi, je veux plutôt un État actif, pas activant. Un État qui se donne tous les moyens nécessaires pour poursuivre l'intérêt général de la manière la plus appropriée pour que ça corresponde aux entrées du plus grand nombre. Ça non plus, ce n'était pas dans la logique de l'intervention de l'État de Sudway. La logique de l'intervention de l'État de Sudway était un État minimal qui s'adressait aux besoins sociaux de base, qui s'adressait surtout aux gens à la base de la pyramide sociale. Donc c'était ainsi. New Labour, si vous regardez ce qu'ils ont fait, évidemment, ils ont fait beaucoup pour les très pauvres en Angleterre. Un effort très sérieux, très soutenu, massif et admirable d'une certaine manière, d'aider aux très pauvres, ceux qui sont au bottom de la société anglaise. Mais on a fait très peu pour ceux qui sont un peu au-dessus, les travailleurs, les gens ordinaires, lower middle classes dans le système anglais, les travailleurs blue collar, ce sont eux qui sont les victimes de ce réarrangement des systèmes de transferts sociaux et de solidarité et de la logique d'intervention de l'État social anglais qui est dans une logique très beveridgienne à essayer d'adresser les soins de très pauvres, mais ne s'intéressait plus au reste de la société. Mais si on regarde pourquoi l'État social en Scandinavie est très accepté à travers de la société, c'est justement parce que toute la société profite des services publics, toute la société profite de l'infrastructure de l'État, toute la société investit à travers ses impôts, mais aussi reçoit quelque chose. Et je crois que c'est autour de cette idée-là qu'un État actif qui intervient dans tous les domaines où c'est nécessaire, où l'État étatique, et l'action étatique peut donner un plus à la qualité des vies des gens, où il faut repenser la logique d'intervention de l'État. Mais je crois, par exemple, il s'agit là aussi des libertés essentielles. Par exemple, la liberté de circulation, c'est une liberté de circulation à l'extérieur de ce bâtiment-là, mais aussi une sorte de liberté de circuler dans l'Internet. Aujourd'hui, on n'est plus libre de circuler sur l'Internet. C'est policé, c'est contrôlé, c'est exploité par des grandes entreprises qui stockent nos données individuelles. Un décret qui était complètement inimaginable il y a quelques années, qui viole la sphère privée des citoyens ordinaires d'une manière jamais vue, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Donc là aussi, je crois, l'État a le droit, le devoir d'intervenir, de défendre, par exemple, cette liberté de circulation, de droit des citoyens à une sphère privée, quelque chose qu'il ne fait pas aujourd'hui. Donc c'est là que vous avez un domaine d'un État actif qui va loin au-delà des domaines d'intervention qu'on connaît d'un État classique. Là, il faut être créatif, réfléchir comment on peut garantir que le citoyen ordinaire joue de son droit à la sphère privée, aussi dans l'Internet. C'est un espace virtuel d'une très grande importance pour les citoyens de l'avenir, je crois. Donc, par exemple, l'économie sociale, les coopératives, tout ça, ce sont des domaines que la fantaisie politique de la gauche a délaissé complètement ces dernières années. Là aussi, je crois qu'un État actif peut aider, contribuer, soutenir, dynamiser. Ce sont donc pas mal de domaines où on peut redynamiser aussi la pensée autour de l'État pour un concept de gauche, un État actif. Quatrième point, terminer avec la fixation économiste du progressisme traditionnel. Si vous voulez, on a la pensée socialiste du centre-gauche était extrêmement économisée. On pensait d'abord à la situation économique matérielle des gens. C'est vrai pour la tradition marxiste de la pensée de gauche, et donc qui était toujours fixé sur la dimension socio-économique, d'une manière extraordinaire même, fixé exclusivement sur la dimension socio-économique de l'existence de l'homme. Mais aussi, c'est aussi vrai pour ce centre-gauche version Blair, Brown, Schröder, qui était absolument braqué intellectuellement sur la notion de la croissance, de la dynamique économique, et qui laissait à côté toute autre dimension de l'existence humaine, plus ou moins. Mais si vous regardez les recherches scientifiques qui fait la bonheur de l'homme, la dimension de consommation matérielle n'est qu'une partie, même une partie pas si importante qu'on le pense. Un certain niveau de consommation dépassé, en général, le bonheur individuel ne dépend plus du niveau matériel, mais d'autres facteurs. Les conditions de vie concrètes, la stabilité du travail est quelque chose d'extrêmement important, de relations sociales stables, un environnement sain et qu'on connaît, une Weltanschauung en allemand qui donne du sens au monde. Ce sont des facteurs. Et si vous regardez la politique qui a été menée par une partie de cette gauche technocratique des dernières 15 années, qui était une politique de flexibilisation, de réduction de protection sociale, de libéralisation du droit de travail, de législation du travail. Donc, dans une logique de flexibilisation et libéralisation de presque tous les domaines de la vie, vous voyez que la question de bonheur individuel, de bonheur collectif, d'épanouissement, de capacité individuelle des gens, ça n'a jamais joué aucun rôle dans la pensée politique du centre-gauche ces dernières années. Là, on est loin de l'état d'esprit qu'on avait atteint dans les années 70, par exemple. Il y avait déjà la première vague de discussions autour de la qualité de vie dans nos sociétés, qui a complètement disparu avec l'essor du néolibéralisme du débat général, mais aussi pratiquement, presque complètement disparu du débat politique du centre-gauche. Et cette question, quelle est la qualité des vies, quels sont les facteurs de bonheur pour les gens, ça doit de nouveau être central dans l'offre politique de la gauche, parce que nous entrons en réalité dans une autre phase où la production matérielle n'est plus si déterminante. Donc il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre au sérieux. Les besoins des gens d'avoir des liens affectifs avec l'enfant, avoir plus de temps pour leur amitié, avoir plus de temps pour leur famille. Tous les facteurs qui, dans une pensée économiste, n'ont aucune place, si vous voulez. La gauche va les reprendre et recoloquer systématiquement dans son offre politique des années à venir. Et le dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est la participation démocratique. Face à cette sclérotisation de nos systèmes politiques, de participation politique, il faut introduire des éléments de participation directe beaucoup plus large qu'aujourd'hui, je crois. L'élargissement de l'espace de la démocratie directe est absolument nécessaire pour redynamiser nos démocraties. Ça peut être tous les moyens sont permis, si vous voulez, le référendum, les initiatives légales, par la base, l'élection directe des hauts fonctionnaires. Donc il y a comme le recall des fonctionnaires, si on trouve, ou des députés, si on trouve qu'ils ne sont pas à l'auteur de leur tâche. Vous avez en Suisse, en Californie, dans quelques États fédéraux, dans quelques régions des Canadiens, mais surtout aux États-Unis ou en Suisse, vous avez des expériences de démocratie directe qui sont intéressantes. Au Brésil, par exemple, l'établissement du budget communautaire par la participation directe des populations qui détermine quelle partie du budget communal est affecté à quel secteur d'activité communale. Et je crois qu'il y a pas mal des instruments qui sont testés dans d'autres contrées du monde qu'on peut utiliser, qu'on va introduire dans notre système démocratique. C'est un levier absolument central, je crois, pour réapproprier la sphère politique à la vie réelle des gens et de redonner une sorte d'appartenance aux populations dans ce système économique et politique comme nous l'avons créé dans l'avenir. Voilà, ce sont les cinq points que je pense. C'est pas le seul, évidemment. La question de l'écologie est absolument primordiale et centrale. Comment réconcilier la civilisation industrielle avec la protection de l'environnement? C'est le grand enjeu planétaire, évidemment, de prochaines décennies. Mais c'est un impératif qui touche à toutes les forces politiques, si vous voulez. Cet impératif est tellement fort qu'une pensée écologique entrera très rapidement d'une manière transversale dans l'offre politique de toutes les forces politiques, de gauche à droite, parce que c'est incontournable, quoi, c'est absolument central. Donc je crois comme démarqueur idéologique et politique de la gauche face à la droite, ça ne servira pas grand-chose. Dans 10 ans, toutes les parties seront des parties vertes, d'une certaine manière. Et la notion de la technologie environnementale, la croissance verte, vous voyez déjà comment ça entre dans les discours de Sarkozy, de David Cameron ou d'Angela Merkel. Donc ça, c'est quelque chose de transversal. Donc ça ne nous permettrait pas de nous démarquer des autres. Ce sont d'autres thèmes. Ce sont des thèmes, par exemple, de la justesse de genre. Évidemment, l'inégalité existante au sein de l'économie entre les hommes et les femmes est un scandale criant en Europe. La gauche non plus, je sais pas, vu les derniers 10 ans, je dois dire que le gouvernement de centre-gauche en Europe ont entamé trop des initiatives trop fortes pour résoudre ces problèmes-là. Là aussi, je crois que c'est un problème transversal qui s'impose, qui doit être résolu, mais qui sera plus ou moins approprié par toutes les forces politiques et pas seulement par la gauche. Donc, pour que la gauche ait quelque chose de spécifique, il faut plutôt penser à d'autres sphères. Voilà, ce sont mes idées. Maintenant, j'espère qu'on a un bon débat. Merci.